diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, toujours la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et grâce à notre appli dans le monde entier. Jacqueline Bourras avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Très heureuse de vous retrouver. Merci à vous toutes et tous d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Aujourd'hui, mardi 19 mai 2026, nous allons parler entrepreneuriat, accompagnement des dirigeants, création d'emplois et solidarité économique grâce à une structure devenue incontournable dans l'accompagnement des entrepreneurs. Je veux parler du réseau Entreprendre Val-d'Oise. Le réseau Entreprendre, c'est avant tout une aventure humaine portée par des chefs d'entreprise qui accompagnent bénévolement d'autres entrepreneurs dans leurs projets de création, de reprise ou de développement d'entreprise. Une dynamique essentielle dans un contexte économique où les dirigeants ont besoin de conseils, de réseaux, d'expériences et parfois simplement d'un soutien humain pour avancer. C'est aussi le partenaire d'IDFM Radio et nous en sommes très fiers. Et pour découvrir toutes les facettes de ce réseau, j'ai le plaisir de recevoir leurs deux coprésidents qui sont Anne Legagneux, directrice de l'imprimerie Interplan, coprésidente donc du réseau Entreprendre Val-d'Oise. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et Michel Marseillan, avocat au barreau de Paris, co-président, évidemment, du réseau Entreprendre Val-d'Oise. Bonjour Michel.
Bonjour.
Bienvenue ce matin dans cette spéciale réseau Entreprendre Val-d'Oise et merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui sur IDFM Radio.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Donc juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai un communiqué de presse à lire pour CY Entreprendre. Parce que CY Entreprendre a obtenu le renouvellement de son label Pépite jusqu'en 2028. Une reconnaissance officielle qui vient saluer le travail engagé de toute cette équipe, la mobilisation de leurs partenaires et la dynamique collective construite autour de l'accompagnement des étudiants entrepreneurs pour leur permettre des établissements membres de CY Alliance. C'est dans ce contexte et pour affirmer pleinement leur ancrage au sein du réseau national Pépite que CY Entreprendre a franchi cette nouvelle étape. Et donc CY Entreprendre devient officiellement Pépite CY Entreprendre. Une mission qui reste bien sûr inchangée et s'en trouve renforcée. Accompagner les étudiants et porteurs de projets à chaque étape de leur initiation entrepreneuriale. Et nous nous félicitons chaleureusement CY Entreprendre pour la réussite de ce nouveau label.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et je retrouve mes deux invités, Anne Legagneux et Michel Marseillan, tous deux coprésidents du réseau Entreprendre Val-d'Oise. Alors, quelques mots peut-être sur ce fameux réseau Entreprendre, hein, pour planter le décor. Anne, pour commencer, peut-être vous, pouvez-vous nous présenter ce réseau Entreprendre Val-d'Oise et rappeler sa mission principale ?
Oui, alors la mission principale de Réseau Entreprendre Val-d'Oise, c'est d'accompagner, comme vous l'avez dit Jacqueline, les entrepreneurs dans leur création ou dans leur croissance d'entreprise au travers de plusieurs projets qui sont tremplin, création, reprise et croissance. Donc ça répond aux différents besoins du futur chef d'entreprise, qu'il soit au niveau de son projet déjà qui commence à aboutir et au cours de ce parcours tremplin, il va pouvoir rencontrer jusqu'à 4 chefs d'entreprise qui vont le challenger et l'aider à parfaire son projet. Création, donc comme son nom l'indique, la création d'entreprise qui est si cruciale sur nos territoires et surtout aujourd'hui les jeunes sont très attirés par la création d'entreprise et l'entrepreneuriat, faut les soutenir. La reprise d'entreprise qui va être un sujet crucial des années à venir puisque oui. Beaucoup de chefs d'entreprise partent en retraite et donc il est vraiment très important de pouvoir accompagner les potentiels repreneurs et croissance pour les entreprises qui veulent passer une marche et qui souhaitent un accompagnement. Donc ces entreprises, on les accompagne via des prêts d'honneur et via du temps que nous, chefs d'entreprise, passons auprès d'eux pour les soutenir, les guider, leur apporter des conseils quand on peut, et en tout cas les écouter.
Très bien. Merci Anne, merci déjà pour ce tableau un petit peu général. Michel, le réseau Entreprendre repose bien sûr sur les valeurs humaines et le partage d'expériences. Est-ce qu'il y a une philosophie du réseau ?
Alors effectivement, la philosophie du réseau Entreprendre, son ADN, ce que j'appelle en fait, c'est comme l'a rappelé Anne, c'est l'accompagnement du chef d'entreprise. Il faut peut-être rappeler un petit peu la genèse, on va dire, de ce réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre est un réseau national et donc il y a tout un tas d'implantations en France, une cinquantaine environ d'implantations en France. Mais c'est aussi un réseau qui se développe à l'international. Hein. Il y a des associations en Belgique, il y en a effectivement en Suisse, en Italie, aux États-Unis, un petit peu, Canada. Avec ce même ADN, donc d'accompagner et de financer des créateurs ou des repreneurs d'entreprises. Il est né il y a 40 ans exactement, cette année, on va fêter le 40e anniversaire du réseau Entreprendre, et il a été fondé par André Mullier, donc la famille Mullier que tout le monde connaît, qui à l'occasion d'une difficulté dans une des entreprises, la Filature, qui avait été fondée par un de ses parents ou grands-parents, je ne sais plus, était en difficulté financière, est obligé de licencier. Et ce monsieur, en fait, a été quand même choqué et heurté donc par les dispositions et les décisions qu'il a dû prendre. Et pour pallier un petit peu les difficultés et reclasser, on va dire, les personnes qu'il a été obligé de licencier, a créé ce réseau. Son leitmotiv était que pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Mmh. Voilà. C'est effectivement ce qui accompagne ce réseau, créer des employeurs, et comme l'a rappelé Anne, créer des employeurs, mais de plus en plus, maintenant, c'est aussi maintenir de l'emploi dans notre territoire, ce qui est extrêmement important. Dans tous les territoires, on parle effectivement du Val d'Oise, mais je pense que ces difficultés de maintien d'entreprise se retrouvent un petit peu partout en France et dans différents départements. Donc un accent sera mis effectivement par la fédération, parce qu'en fait, effectivement, le réseau Entreprendre est groupé et chapeauté par une fédération réseau Entreprendre, donc. Et le leitmotiv en ce moment, c'est effectivement le maintien de l'emploi. Oui. Voilà, rappeler rapidement ce
que c'était. Merci d'avoir cité André Mullier. Il se trouve que moi, j'avais eu l'opportunité de le recevoir il y a à peu près, c'était il y a pas mal d'années, je crois que c'était en 2021, peu de temps avant qu'il se tue il s'est tué dans une il faisait du ski, hein, voilà, et je sais plus s'il y a une avalanche ou quelque chose, enfin voilà, c'était assez dramatique. Et voilà, j'étais très très honorée d'avoir pu le recevoir, et il nous avait vraiment développé son idéal, hein, de réseau Entreprendre. Alors Anne et Michel, vous l'avez dit, ce sont les chefs d'entreprise qui gèrent le réseau Entreprendre, une mission bénévole, hein, que vous exercez tous les deux. Qu'est-ce qui fait que des chefs d'entreprise comme vous choisissent de consacrer du temps bénévolement à accompagner d'autres entrepreneurs ? Anne ?
Bah moi, c'est simple, c'est que je suis une ancienne lauréate.
Oui.
Donc en 2016, j'ai repris l'imprimerie Interplan, dont le dirigeant partait à la retraite. Et je me suis tournée vers le réseau Entreprendre pour être accompagnée. Et ben, j'ai adoré, j'ai bien bénéficié de leurs conseils, de leurs prêts. Et d'avoir été accompagnée pendant 2 ans, ben, ça m'a donné envie à mon tour et c'est un des principes du réseau, c'est la réciprocité.
Oui.
Donc, je suis devenue membre d'Avenir, je suis devenue administratrice et je suis devenue coprésidente avec Michel.
C'était un parcours presque normal alors.
Voilà.
Et vous, Michel, donc parce que vous êtes avocat et ça paraît un petit peu, vous êtes chef d'entreprise bien sûr, mais voilà, ça paraît un peu original.
Alors, original, pas tellement, finalement, puisqu'on est quand même plusieurs avocats dans notre association là du Val d'Oise. Alors moi, j'étais avocat en droit des affaires, donc droit des affaires, j'ai côtoyé toute ma vie professionnelle, donc des chefs d'entreprise, et j'ai vécu à leur côté, dans la création, dans la reprise d'entreprise, des acquisitions, dans leurs difficultés de financement. Quand un start-up démarre, un start-upper démarre son entreprise, c'est très difficile de trouver du financement. Pardon, du financement, les fonds d'investissement et les business angels effectivement ne financent pas l'extrême démarrage d'activité. J'étais présenté par un ami qui est membre de notre réseau au réseau Entreprendre. Il m'a dit, écoute, si ça te va de un petit peu, pas de refaire le métier, puisqu'on ne donne pas de conseils, oui. On accompagne, c'est pas pareil, mais d'accompagner donc des dirigeants qui créent leur boîte, qui se développent, etc. Tout naturellement, j'ai dit oui aussi, parce que ça me permet aussi de rester en contact, ce que j'aime beaucoup, de jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup de choses dans la tête, des ambitions et des projets et beaucoup d'enthousiasme, et ça fait toujours plaisir, voilà.
Très bien.
Ce qui m'a motivé particulièrement.
Merci pour cette présentation. On reviendra dans quelques instants sur vos parcours respectifs. Je vous propose de faire une pause et on va écouter le duo Renaud-Axel Red, Manhattan Kaboul.
Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café.
Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. Par 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les ponts m'ont rasé mon village, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle. So long adieu mon rêve américain.
Moi, plus jamais esclave des chiens.
T'imposer l'islam des tyrans, cela ont-ils jamais lu le Coran. Suis redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile.
Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
Deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel, la violence éternelle.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin, c'est notre spécial réseau Entreprendre Val d'Oise en compagnie de ses deux coprésidents, Anne Le Gagneux, directrice de l'imprimerie Interplan, et Michel Marseillan, avocat au barreau de Paris. Alors, on revient un petit peu sur vos parcours respectifs. Anne, donc on a compris que vous étiez chef d'entreprise hein, dans l'imprimerie. Quel est votre parcours entrepreneurial plus précisément?
Alors en fait, moi je suis venue tardivement à l'entrepreneuriat puisque j'ai eu une longue carrière dans le marketing, la gestion d'administration des ventes, la communication pendant une trentaine d'années. J'ai travaillé d'abord dans le groupe Philips, après dans une société qui fabriquait des cuisines professionnelles pendant plusieurs années et pendant 12 ans au CETIM, au Centre Technique des Industries Mécaniques.
Ah oui.
Où j'ai fait pas mal de marketing et en tout cas la mise en place de leur gros ERP pour toutes les problématiques avant-vente dans les années 2000-2010. Donc ce qui a été vraiment hyper formateur et intéressant et qui m'a permis de connaître à peu près toutes les personnes du groupe que j'ai eu la chance d'aller former et de rencontrer. Donc une expérience très formatrice. Et à 50 ans, envie de changement. Et une occasion de reprendre cette imprimerie. C'était pas du tout mon métier, mais c'était quand même connexe à mon activité toujours, puisque j'avais toujours fait des docs dans le cadre de mon, enfin fait imprimer dans le cadre de mon activité de communication. Donc, je me suis lancée et puis je pense que j'ai eu raison.
Oui, c'est formidable. Donc, une envie comme ça d'être à votre compte.
Oui, une envie de changement. Après 12 ans passés au CETIM, c'était le moment de passer à autre chose ou de rester jusqu'à la retraite. C'était vraiment le moment de décider. Donc, j'ai décidé de me lancer et je regrette pas.
Félicitations, parce que c'est pas évident comme ça de se lancer, et surtout l'imprimerie qui est un secteur qui reste quand même fragile, hein, toujours. Donc,
Alors, à l'époque, c'était peut-être un petit peu moins difficile. Ça le devient de plus
en plus. C'était en quelle année?
C'était en 2016.
Oui.
Bon, c'était déjà.
Ah oui, c'était oui quand même. Départ, si.
Oui, bien sûr.
Oui. Avec les nouvelles technologies, tout ça.
Après, tout l'intérêt de restructurer, de mettre en place, de faire des recrutements, de mettre les bonnes personnes, tout ça, ce sont des problématiques très variées et très intéressantes.
Merci Anne. Michel, donc vous, avocat du droit des affaires, donc. Pareil, votre parcours?
Alors, moi, j'ai toujours exercé le métier, effectivement, d'avocat en droit des affaires. J'ai démarré, j'avais pas 30 ans. Et puis, mon objectif, j'avais ça en tête, dès le départ, c'était de créer mon cabinet. Alors, bien sûr, j'ai fait mes premiers pas dans des cabinets, plutôt d'assez gros cabinets. Puis, assez rapidement, avec un associé, on a créé un cabinet qui est devenu important. On avait environ 30 à 35 avocats collaborateurs dans ce cabinet. Et donc il faut considérer en fait un cabinet d'avocats maintenant comme une entreprise, hein. C'est une entreprise un petit peu à l'image des cabinets anglo-saxons, mais image à laquelle se rallient les cabinets français de plus en plus. Donc c'est vraiment structuré comme une boîte de conseil finalement, avec aussi des implications commerciales bien évidemment, des démarches à faire, etc. Et puis voilà, donc on a fait ce cabinet. Ensuite, la vie étant ce qu'elle est, donc il y a une séparation et j'ai recréé un cabinet il y a une vingtaine d'années environ, avec lequel j'ai terminé ma carrière, on va dire, toujours dans ce domaine bien sûr du droit des affaires. Et dans ce cadre-là, des dossiers hyper intéressants à l'international avec des grosses PME, on va dire, ou des ETI, comme on dit maintenant, qui avaient des projets aux États-Unis, en Inde, enfin, etc. Donc sur lesquels on a beaucoup participé, beaucoup de levées de fonds, ce qui m'a permis de fréquenter aussi le milieu particulier de la banque, de la finance, donc des fonds d'investissement et puis leurs particularités. Et puis, dans les années 2000, qui étaient des années extraordinaires, les grosses bulles Internet là qui se développaient, on a fait beaucoup d'introductions en bourse à Paris et puis en Europe aussi, et sur des dossiers qui étaient vraiment hyper intéressants et voilà, très très formateurs, très très formateurs, beaucoup de rigueur, beaucoup de
oui,
mais
faut
aussi
pas se louper.
Beaucoup, faut pas se louper, mais aussi beaucoup de rêves de jeunes gens qui avaient les yeux qui clignotaient effectivement, qui clignaient comme ça à l'image de rentrer en bourse. C'était quand même un aboutissement qui était assez extraordinaire pour une start-up, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc aujourd'hui, j'imagine que vous apportez toute votre expertise juridique dans ce réseau Entreprendre.
Alors, j'apporte une expérience. Effectivement, encore une fois, au réseau Entreprendre, on accompagne, hein, on ne conseille pas. Donc j'apporte une expérience, cette expérience que j'ai puisée, entre guillemets, qui m'a été apportée par ces jeunes entrepreneurs que j'ai accompagnés tout le temps. Et je voyais leurs difficultés, je voyais leurs projets, je voyais leurs besoins, je voyais la façon dont on pouvait les résoudre. Et en étant réseau Entreprendre et en accompagnant donc nos jeunes lauréats, ou avant même en phase amont, puisque le parcours tremplin démarre en amont, en essayant de comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés à naître, et c'est surtout les faire exprimer, les faire parler sur leurs problèmes, leurs ambitions, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et au travers de ça déceler, on va dire, ce qui pourrait être amélioré,
ou
déceler les difficultés psychologiques, les potentiels, etc. Et je pense que c'est, moi c'est comme ça. Après, chacun aussi a sa façon d'accompagner, on va dire, un petit
bien
peu
sûr.
Les entrepreneurs. Ils me posent certains des questions juridiques auxquelles je réponds timidement, parce qu'encore une fois, je n'ai pas
cette expertise-là.
Mais surtout, encore une fois, on ne donne pas de conseils. Il y a des avocates, des jeunes avocats très compétents dans le réseau ou à l'extérieur, et qui effectivement peuvent répondre. Mais quand on accompagne quelqu'un, c'est encore une fois, c'est apporter son expérience, son savoir-faire et sa vision globale de l'entreprise.
Voilà. Et alors, par rapport à cette expérience dont vous venez de nous parler là avec la bulle Internet, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les défis juridiques et humains auxquels les entrepreneurs font face?
Alors, les défis juridiques ont toujours été nombreux et restent très nombreux. Pour moi, mes années d'expérience m'ont fait porter un regard particulier sur les problèmes de fiscalité et sur les problèmes de droit social. C'est très important parce qu'effectivement, ce sont des droits qui sont très mouvants, qui évoluent presque d'année en année à chaque loi de finances. Il peut y avoir des modifications. Donc, les chefs d'entreprise sont obligés de se focaliser et puis de bâtir aussi d'une certaine façon un petit peu leur développement ou leurs ambitions par rapport à ces problématiques-là. Et ça pose toujours des problèmes de sécurité juridique. Ce qui est vrai une année ne le sera plus l'année prochaine. Et je pense, par exemple, aux transmissions d'entreprises, donc qui dépendent énormément de la fiscalité que le gouvernement veut apporter à ces transmissions d'entreprises, les lois qui permettent, on va pas rentrer dans le détail, mais de défiscaliser une partie, etc., qui peuvent changer. Et c'est vrai que la transmission d'entreprise, Anne en a parlé tout à l'heure, on arrive à un stade où il y a énormément d'entreprises qui vont être à vendre, et qui vont être vendus parce qu'il y a peu ou pas de reprise familiale, parce qu'il y a une fiscalité qui reste lourde, et que finalement, quand on veut reprendre l'entreprise familiale, on va dire, ça coûte énormément d'argent et c'est très compliqué. Voilà. Et donc c'est ça un petit peu c'est principalement sur ces deux postes. Les postes après, on va dire qu'en droit en droit commercial ou en droit civil ou droit des contrats, c'est beaucoup stable. Bien sûr, il faut attirer l'attention des chefs d'entreprise aussi sur ces problématiques réglementaires qui sont évolutives, mais quand même beaucoup plus sûres et beaucoup plus stables que la fiscalité et le droit du travail.
Oui, je comprends. Alors, un parcours entrepreneurial n'est jamais linéaire. Vous avez sans doute rencontré des difficultés l'un et l'autre. Quelles leçons souhaitez-vous transmettre? Alors, on a bien compris que vous ne conseillez pas, mais malgré tout, vous pouvez échanger sur votre propre expérience auprès de ces entrepreneurs que vous suivez chez Réseau Entreprendre. Anne?
Oui, alors... les échanges sont toujours très riches, en fait, et bien sûr, on conseille pas, mais on est quand même aussi là pour les rassurer, leur donner notre avis, quand même un peu, et puis surtout leur aider à garder la tête froide et à croire en leur projet, en peut-être en leur mettant en lumière des points qu'ils n'avaient pas forcément
oui, soulever,
envisager ou par, peut-être par aussi par manque de d'expérience, surtout quand ce sont de très jeunes entrepreneurs, ou des fois en leur mettant un petit peu les pieds sur terre sur attention, tel point de réglementation tu ne l'as pas envisagé, ou attention dans ton business plan sur les ressources il y a peut-être ça ou ça qui va pas. Donc c'est vraiment être un peu en backup eux sans modifier ou sans changer quoi que ce soit, mais être en backup pour les aider à réussir. C'est vraiment notre
leitmotiv.
Voilà, notre motto, les aider à réussir.
Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants sont aujourd'hui davantage confrontés à l'incertitude économique ?
Absolument, oui. Et de différentes façons. Les marchés, la volatilité de la demande, le fait que tout soit devenu très versatile, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et même dans nos métiers, en tout cas, bon, particulièrement dans le mien, on ne sait pas forcément cette semaine ce qu'on fera la semaine prochaine. Donc, tête froide, garder ses nerfs et puis toujours rester motivé pour avancer.
D'où peut-être, mais on va en parler, une recrudescence de candidats pour le réseau Entreprendre. Ah, vous allez nous dire ça, non ?
Oui, alors les candidats, je dirais oui et non. Nous, on n'a jamais assez de candidats.
Oui.
Donc, oui, beaucoup de gens qui ont envie de prendre leur destin en main quand même. Et ça, c'est vraiment très positif.
Mmh, très bien. Merci Anne et Michel. Allez, on fait une nouvelle pause avec Calogero et son titre Cédi.
Des chansons, des filles, beaucoup de vers et de nuits. Telles étaient nos heures, telles étaient nos vies. Fut-il adolescent, tout nous était permis. Roi de pacotille, prince démuni. On est riche que de ses amis, c'est dit. Des tempêtes arrivent avant qu'on les prédit. Amour impossible, défaite, ironie. Quand tout s'abîme, quand même nos rêves fuient, il ne reste qu'une île, un port, un parti. On n'est riche que de ses amis, c'est dit. Que de mes amis, c'est dit.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Merci d'être resté avec nous. C'est l'économie en direct et ce matin, c'est une émission consacrée au réseau Entreprendre Val d'Oise, partenaire d'IDFM. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anne Le Gagneux et Michel Marseillan, tous deux coprésidents de ce réseau Entreprendre Val d'Oise. Anne étant chef d'entreprise, directrice de l'imprimerie Interplan, et Michel Marseillan, chef d'entreprise aussi, avocat au barreau de Paris. Alors, on va parler un petit peu maintenant des actions du réseau Entreprendre Val d'Oise, parce qu'elles sont nombreuses. Anne, je commence avec vous. Est-ce que vous pouvez nous détailler concrètement ces actions menées par le réseau Entreprendre Val d'Oise?
Oui, alors bien sûr, déjà, notre action principale, c'est de nous faire connaître et donc de faire savoir aux porteurs de projets que nous sommes là et nous sommes là pour les aider. Donc, on a déjà de fortes actions de communication pour nous faire connaître et développer à la fois notre réseau de membres, parce qu'on a toujours besoin de nouveaux membres tout le temps. Il y a des membres qui entrent, des membres qui sortent.
Oui. Donc l'important, il y a beaucoup de flux
quand même. Oui, l'important c'est de garder un nombre de membres qui nous permet de consacrer suffisamment d'heures de bénévolat. Donc tout chef d'entreprise qui ne nous connaît pas encore, je l'engage à venir nous découvrir et de voir en fait toutes nos actions et toute l'entraide qu'on peut développer. Il y a donc au-delà de ces actions de communication qui sont très nombreuses, une présence des permanences sur nos agglos partenaires, donc qui sont Cergy, Argenteuil, Pleine Vallée, et où on va au-devant de nos potentiels membres ou lauréats, et qui nous assure une présence dans le département constante. Après, donc, au-delà de toutes nos réunions, donc de tout ce qu'on fait, les réunions avec les potentiels candidats, les comités d'engagement au cours desquels une dizaine de membres vont valider ou pas un projet et décider de l'accompagner, on organise ensuite pour nos lauréats un certain nombre de rencontres et d'activités. Donc, il y a le club des lauréats. Pendant 2 ans, on va organiser des réunions sur des thématiques économique, RH, sécurité, sur des tas de thèmes qui vont permettre aux lauréats de parfaire leur formation. On va faire des afterworks pour se rencontrer. Et là, on va parler, ça sert surtout à la rupture de l'isolement du chef d'entreprise,
oui,
qui est quelque chose de vraiment à
oui,
combattre.
De récurrent. Et,
oui, dont beaucoup souffrent. Alors, pas seulement pour nos lauréats, mais aussi pour nos membres, qui sont toujours heureux de se retrouver. On peut échanger sur des problématiques, demander des conseils à d'autres chefs d'entreprise plus capés que nous sur certains sujets. Enfin, c'est vraiment l'occasion de très nombreux échanges. Et puis, on fait régulièrement des réunions, des dîners, des voilà.
Oui.
L'idée, c'est de mettre de l'humain, de la rencontre dans notre réseau pour le faire vivre. Voilà. Et à ces réunions, on convie également tous nos partenaires, que
bien
ce
sûr,
soit banque,
oui,
BPI, pour resserrer les liens et faire de notre association quelque chose de très solidaire et très vivant.
Oui, avec des ateliers toujours très très instructif. Moi, j'avais pu participer à celui que vous avez fait chez Ferrandi, qui était vraiment
visite d'entreprise,
incroyable.
Le mentionner, des visites d'entreprise, ouais.
Il y a forcément du mentorat avec des chefs d'entreprise expérimentés, j'imagine.
Oui. De toute façon, déjà, chaque projet, chaque lauréat est accompagné par un chef d'entreprise dédié qui va rencontrer chaque mois. Ils vont avoir l'occasion d'échanger. Le lauréat va dire où il en est, va parler peut-être d'éventuels problèmes. C'est l'occasion d'échange. Et puis il y a aussi des occasions particulières. Mais je crois que ça c'est Michel qui en parlera le mieux du Gard, des entreprises qui nous sollicitent pour avoir une aide quand ils rencontrent des problématiques particulières. Donc là, je vais laisser Michel en parler parce qu'il connaît ça beaucoup mieux que moi.
Alors, Michel, avant de répondre à cette question, je voulais savoir comment vous sélectionnez les entrepreneurs accompagnés par le réseau.
Alors, le réseau au niveau national, effectivement, a posé des conditions qui correspondent encore une fois à l'historique et puis à l'ADN de ce réseau entreprendre. La condition majeure, c'est de la création d'emplois.
Oui.
Donc le jeune lauréat ou futur lauréat qui vient nous rejoindre et solliciter du financement et de l'accompagnement doit s'engager à créer 5 emplois dans les 3 ans.
Bon. D'accord.
Alors effectivement, ensuite chaque association est libre d'aménager, mais dans le respect quand même hein, de la création d'emplois. Et nous, pour mieux correspondre en ce moment, on va dire au tissu un petit peu économique du département, donc on a décidé de ramener à 3 créations d'emplois dans les années. Et c'est un petit peu aussi c'est ce que font un petit peu aussi les autres associations, mais ça reste effectivement la condition. Tous les projets sont bienvenus. Ça peut être des projets de type industriel, de type techno, de type commerciaux, etc. Donc là-dessus, on ne regarde pas le profil du projet proprement dit. On regarde la qualité du dirigeant à pouvoir créer et puis développer son entreprise, à embaucher et puis donc développer, on va dire, une activité durable sur le département. Alors, il faut remarquer quand même qu'on a un taux de pérennité qui est important, hein, puisqu'effectivement,
c'est ce que
comme l'a rappelé Anne, donc on a quand même une sélection entre guillemets en amont et avec un comité donc d'engagement qui est attentif, et on a un taux de pérennité de 92% à 5 ans, ce qui est beaucoup.
Je comprends, oui.
Et dont on est plutôt fier, on va dire,
trouvé,
voilà.
Oui.
Puisque c'est au-delà de la moyenne nationale, en fait.
Formidable. Avec cette moyenne de création d'emplois, justement, d'au moins 3 emplois, donc souhaités.
Voilà. Alors, c'est vrai que l'objectif de création d'emplois peut se comprendre maintenant un peu différemment. Parce qu'effectivement, créer des CDI, c'était encore une fois l'objectif d'origine. Mais ce qu'on regarde avant tout, c'est les emplois aussi indirects que crée l'entreprise dans le département. Parce que l'entreprise qui se crée va faire appel à des boîtes de communication, des sous-traitants, à tout un tas comme ça d'autres partenaires d'acteurs économiques dans le département. Et donc globalement, ce qu'on regarde, c'est comment cette entreprise qu'on a financée et qu'on accompagne joue entre guillemets son rôle d'entreprise.
Fait
et
vivre
comment
le
fait,
tissu
voilà,
local.
Exactement.
Oui.
Comment le fait vivre, c'est ça, c'est tout à fait ça. Fait vivre et alimente le tissu local du département. Autre condition, il faut que ce soit une entreprise du Val-d'Oise,
bien sûr.
Sinon, ça sera un autre département
qui
va s'en occuper.
Ouais. Vous avez un exemple à nous citer d'une entreprise comme ça, ancrée territorialement et qui a bien fait vivre autour d'elle?
Alors, on a effectivement déjà Anne.
C'est l'exemple parfait.
On peut parler d'Anne, effectivement, qui était lauréate et puis qui a repris l'entreprise, qui l'a développée, qui a recréé de l'emploi. Je sais pas trop si je peux en citer au niveau des noms, etc.
Ça peut être délicat,
mais effectivement, oui, tout un tas d'entreprises. Et puis, j'ai dans la tête une entreprise qui a créé un procédé nouveau dans l'industrie alimentaire entre guillemets, et puis très respectueux effectivement de ces des composants qu'elle vend à des entreprises elles-mêmes d'industrie alimentaire, etc. Qui a créé une usine, qui a bâti une usine, qui a créé de l'emploi, etc. et qui fonctionne bien dans le département. Plusieurs comme ça effectivement qui sont des boîtes qui sont devenues pérennes en fait.
Voilà. Qui sont vraiment...
Une autre aussi, c'était une jeune femme qui a créé une entreprise de ce qu'on appelle les derniers kilomètres, vous savez, dans les livraisons de colis, qui travaille pour des grands groupes, pour Amazon, pour pas le citer par exemple, qui a créé beaucoup d'emplois et puis tout ça.
Oui. Je crois savoir à qui vous faites allusion.
Voilà, des entreprises qui sont devenues pérennes et qui
font... J'ai reçu aussi.
Ouais.
Alors, au-delà de cette volonté que l'entrepreneur crée des emplois, est-ce qu'il y a des critères particuliers que vous recherchez chez les porteurs de projets? Enfin, chez ceux qui rejoignent le réseau Entreprendre.
Moi, je dirais Anne. Oui, et c'est dans les valeurs.
Oui,
c'est
ces critères-là. Et ces valeurs, c'est... c'est la réciprocité, c'est le désintéressement, c'est la volonté de faire du bénévolat, c'est l'entraide. Et ces valeurs-là, elles sont fondamentales dans le réseau. Mmh. C'est tout ce qui fait notre force et notre solidarité, qui fait que 40 ans après, on est toujours là.
C'est vrai, on encourage beaucoup nos lauréats à devenir eux-mêmes, comme l'a fait Anne, encore une fois, c'est un modèle, Anne, à devenir membre du réseau et puis à prendre des activités et en charge au sein du réseau, effectivement. C'est important, c'est comme dit Anne, c'est cette réciprocité du lauréat qui devient membre et qui lui-même décide d'accompagner des lauréats, etc.
C'est une chaîne, c'est la reconnaissance, l'idée d'André Mullier,
c'est la chaîne. Ça ne doit pas s'arrêter.
Juste une fois qu'on est lancé.
Le lauréat doit passer le relais et c'est comme ça que ça continue.
Il doit passer le témoin. Les profils d'entrepreneurs que vous accompagnez plus précisément, Anne et Michel?
Je crois qu'il y a tout. Oui,
il y a vraiment de tout.
Des exemples, enfin vous avez dit plutôt des industriels, mais aussi des parce que j'ai cru comprendre si je pose cette question, c'est que j'ai eu l'occasion d'assister à votre AG, donc voilà, et j'ai d'ailleurs bien apprécié ce moment. Il y a quand même des paliers, je veux dire que est-ce que par exemple l'auto-entrepreneur fait partie de vos candidats?
Non, je pense que vous avez raison, Jacqueline. En fait, un de nos critères, donc, c'est de créer 3 emplois et peu d'auto-entrepreneurs peuvent s'engager à créer ces 3 emplois dans les 3 ans. Donc, en général, on recherche plutôt des entrepreneurs avec des vraies structures d'entreprise, avec un projet, un vrai projet de recrutement. Mais par contre, une fois qu'on a dit ça, ça peut être on a une dame qui a créé son entreprise d'aide à la personne, on peut avoir des micro-crèches, on peut avoir de toutes sortes de choses, du conseil, on peut avoir de l'industrie, comme disait Michel. Donc, plus c'est dans le type de projet qu'on a une typologie, c'est-à-dire des projets qui vont vraiment être porteurs d'emploi, et qui vont, d'ailleurs, notre taux de pérennité à 92%, c'est le résultat de ça.
Bien sûr.
De vrais projets d'entreprise. Et il y a d'autres structures dans le Val d'Oise
qui sont plus adaptées à
soutenir les auto-entrepreneurs. Ils font d'ailleurs ça avec beaucoup de brio.
Bien sûr, oui, il en faut pour tout le monde, comme on dit.
Voilà.
Michel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, effectivement, rappeler que le réseau Entreprendre finance, on va dire, 3 types de grands projets, c'est la création, la reprise et puis la croissance. Et cette année, et pour les années à venir, on va tenter de se focaliser sur la reprise d'entreprise. Comme rappelait Anne tout à l'heure, encore une fois, il y a beaucoup d'entreprises industrielles donc qui ont besoin de repreneurs. Et je dirais qu'un petit peu le message, c'est le chef d'entreprise qui veut reprendre une entreprise dans le secteur industriel sera le très bienvenu chez nous pour les années à venir. On va effectivement tenter de se focaliser là-dessus. Et je voulais parler un petit peu aussi des entreprises en difficulté. On avait été sollicité par la préfecture là qui a créé un fonds de revitalisation des entreprises en difficulté qui cherchait en fait des associations comme la nôtre pour repérer, soutenir et puis avoir une véritable activité, on va dire, de reconnaissance de ces entreprises là puis comment on peut les accompagner, etc. Et c'est déceler si ce sont des entreprises en difficulté qui peuvent être viables ou pas viables, et dans le cas où elles sont viables, les financer également, par voie de prêt d'honneur et puis même de subvention. Et on a été retenu, avec notre publicité, bien évidemment, avec notre confrère, on va dire, Initiative, pour faire partie du jury de ces dans le cadre de ces entreprises dites en difficulté. Je trouve que c'est important parce que là aussi, comme avocat, bien sûr, on peut constater qu'une entreprise qui est en redressement judiciaire et qui a encore un potentiel, on va dire, de pouvoir s'en sortir, de partir sur un plan de redressement et puis de sortir de ce plan, des difficultés énormes, voire impossibles pour trouver des fonds. Les banques ne prêtent pas parce qu'il y a un problème de réglementation, donc il faut des fonds propres. Et c'est vrai que le système du prêt d'honneur ou de la subvention. Alors le prêt d'honneur, donc c'est un prêt qui est accordé aux dirigeants. Du prêt d'honneur, je trouve que c'est un bon système qui peut maintenir de l'emploi sur le département.
Est-ce que ce prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro?
Ce sont des prêts à taux zéro, tout à fait.
Oui.
Voilà, absolument. C'est intéressant de le rappeler. Nos prêts sont à taux zéro. On est totalement bénévole et
C'est ça.
Et rien, absolument rien n'est facturé à l'entreprise.
Oui. Et donc, comme un petit peu comme avec le système de initiative, ce prêt d'honneur, eh bien, conforte la banque à de son côté faire également un prêt, et ça permet comme ça aux entreprises de survivre.
Ouais, et tout à fait. Et là aussi, la fédération au niveau national a rappelé un ratio qui est intéressant, c'est que l'effet de levier, c'est-à-dire que quand une association prête 1000 euros. Le candidat est assuré d'emprunter 5000 euros à l'extérieur.
Ah oui. D'accord.
Donc ça fait des sommes qui sont, voire plus, hein, c'est à minima, et donc des montants qui sont significatifs, quoi.
Ouais. Pour revenir sur la reprise d'entreprise, hein, dont vous parlez avec, enfin, il faut en parler, c'est vraiment la problématique du moment. Je crois que même le gouvernement veut faire une année consacrée à la reprise d'entreprise. Donc peut-être que ça va vous aider dans cette voie-là.
Certainement. Anne, de toute façon, il faut que on se mette en avant, oui. on fasse connaître nos problématiques, l'aide qu'on peut apporter. C'est vrai que si c'est le cas, ça matche complètement avec la politique qu'on aura pour les années à venir.
Oui. Et puis les partenaires aussi, les territoires sont très sensibilisés parce qu'effectivement, ils se rendent compte qu'il y a des entreprises qui sont viables, qui sont rentables, qui sont bon, mais avec encore une fois des chefs d'entreprise qui. C'est en fait la cession d'entreprise est une véritable difficulté pour le fondateur. On a connu nombre de là aussi dans mon parcours et puis ailleurs nombre de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à se décider à vendre pour différentes raisons.
C'est
le bébé, on veut pas se séparer du bébé, on fait confiance à personne, c'est ça aussi le problème. On est certain que on est toujours incontournable, on reste le seul élément qui pourra diriger l'entreprise et la faire vivre. C'est à la fois vrai, mais c'est aussi totalement faux. Je trouve que une bonne structure d'entreprise, ça commence par mettre en place sa succession. Et d'ailleurs, je parlais de sociétés cotées là tout à l'heure, et c'est une obligation dans les sociétés cotées de mettre en place la succession des présidents. Hein, il faut indiquer en cas de carence du président, brutal ou pas brutal, voilà comment vont se passer les choses. Donc je pense que ce schéma qui est intéressant pour les très grosses boîtes peut se refléter dans les PME, et au contraire, plus une société petite ou une PME est structurée, plus elle sera facile à vendre et mieux on la vendra et plus on conservera des emplois sur le territoire. Une chose hyper importante.
Oui, vous faites des réunions dans ce sens pour motiver et puis sensibiliser les chefs d'entreprise.
Voilà, donc on démarre effectivement cette activité-là, enfin du moins cette vision en créant des contacts, on va organiser avec nos territoires partenaires effectivement des réunions, et puis avec aussi la CCI, CMA, donc tous nos partenaires en fait, des réunions pour sensibiliser le chef d'entreprise à penser à vendre sa boîte.
Le plus difficile, c'est de détecter les projets. Hein.
Et c'est de les faire venir, tu as raison, les faire venir, ouais, tout à fait.
Ouais. Alors, encore une question avant de passer à un autre thème. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs particulièrement dynamiques dans le Val d'Oise? Et si oui, pouvez-vous nous en dire quelques mots, Anne?
Ces dernières années, on a eu énormément de... Ça, c'est un peu tassé, hein. De jeunes qui avaient des applis, qui voulaient.
Ah oui.
Ça, je crois que ça s'est bien tassé. Ça s'est bien tassé. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont une idée. Que ce soit sur un, c'est difficile parce que les dossiers qui sont en instruction, on n'a pas tellement le droit d'en parler.
Bien sûr, je comprends.
Donc, des jeunes qui ont une idée, qui veulent la mettre en place, la développer, il faut les soutenir dans leur démarche. En tout cas, beaucoup d'envie. C'est ça qui est vraiment intéressant et motivant pour nous, c'est de voir l'envie de ces jeunes de créer leur propre emploi, d'avoir leur propre structure. Donc, je dirais que c'est moins focalisé que ces dernières années où on avait eu tellement d'applis.
Oui.
Et que c'est un bon signe.
Bien sûr.
On est beaucoup plus maintenant, je trouve, dans le concret, dans la mise en place de choses, plus ancré dans la vie réelle que dans l'internet.
Et donc, ça représente combien de candidats que vous, enfin, de chefs d'entreprise que vous suivez à l'année? Vous avez une moyenne?
À l'année, je pense qu'on en suit de l'ordre une cinquantaine, non?
Une cinquantaine qui
une cinquantaine de chefs d'entreprise de suivis,
bien, c'est
ça, ce sont tous les lauréats qu'on cumule, qu'on va suivre pendant 2 ans.
C'est ça, le suivi, c'est 2 ans.
Oui.
Oui, tout à fait.
Oui. Donc, entre le moment où le candidat est accepté, c'est-à-dire il va se présenter, il y a un jury qui le sélectionne, et puis à partir de là, donc la machine se met en route. C'est et ça. Pendant 2 ans, vous le suivez.
C'est ça. Donc, en fait, quand son projet est en gestation, il est reçu par 4 chefs d'entreprise de Réseau Entreprendre qui vont donner leur avis sur son projet et qui vont dire ce candidat est habilité à aller ou pas en comité d'engagement. Le jour du comité d'engagement, il y a une dizaine de chefs d'entreprise autour de la table. Le candidat pitch pendant une vingtaine de minutes. Après, il a une vingtaine de minutes de questions. Suite à ça, le candidat sort, les entrepreneurs décident si le projet va ou pas être soutenu. Et dès que le candidat en fait a été validé, donc il va recevoir très rapidement son prêt d'honneur et son accompagnement commence. Donc, oui. Tous les mois, il va avoir un entretien avec un chef d'entreprise du réseau qui aura été désigné pour l'accompagner. Et il aura ses réunions régulières de clubs de lauréats, donc avec d'autres lauréats, d'afterworks s'il le souhaite, venir rencontrer les autres lauréats, les chefs d'entreprise, et puis toutes les occasions de réunions, les visites d'entreprise, les repas du soir,
les occasions pour se rencontrer.
C'est tout un écosystème qui se met en place autour du lauréat, qui va lui permettre, s'il le souhaite, bien sûr, de ne jamais être seul en fait et de toujours être entouré de ses pairs.
Oui. Alors, je pense que c'est le moment d'en profiter. Si en ce moment des chefs d'entreprise nous écoutent, que faut-il faire pour vous contacter?
C'est très simple. En fait, on a un site internet et sur le site internet, on peut remplir une fiche de contact où on peut décrocher son téléphone et téléphoner à... Nous avons 3 permanents qui sont basés à La Turbine, à Cergy, et qui vont pouvoir recevoir les candidats téléphoniquement ou les rencontrer. Donc, les permanentes vont... Une directrice qui est Marie-France Vautier, une permanente qui est Angélique Nivard et... un alternant en communication.
Oui.
Donc toutes ces personnes vont détailler ce qui est nécessaire pour monter son dossier. Donc parce qu'il y a quand même
des
passages obligés. Faut avoir fait son business plan. Il y a un certain nombre de... Il faut avoir créé son entreprise, qu'elle soit enregistrée au registre du commerce. Oui. Voilà, des étapes obligées. Très rapidement, si le projet est urgent, on va pouvoir commencer à déclencher les entretiens du parcours tremplin avec les chefs d'entreprise qui vont pouvoir écouter le projet de ce futur candidat. Voilà.
Et alors donc vous avez 92% de taux de réussite. Les 8% sont représentés par qui? C'est-à-dire des gens qui se découragent? Comment ça se passe?
Alors,
Michel?
Je dirais que ça dépend beaucoup du profil, de la nature du projet. Et comme l'a rappelé Anne tout à l'heure, à une époque on a eu beaucoup de création de plateformes internet, enfin de d'applications ou autres, qui malheureusement finalement sont pas révélées pérennes. Et c'est vrai que on observe quand même que c'est quand même plus dans ce cadre-là des sociétés, enfin de ce type d'activité qui sont les plus fragiles finalement, parce que il y a eu pléthore et on s'imaginait malheureusement qu'en créant un site internet ou une plateforme commerciale, via internet, il suffisait de la créer puis que la clientèle arrivait. Non, c'est pas vrai.
C'est la fable de La Fontaine avec Perrette et le pot au lait.
Oui, c'est un peu ça, tout à fait. Oui, tout à fait. Et on observe que les entreprises, je dirais, ça peut être une salle de sport, ça peut être ça peut être aussi dans l'industrie, on remarque aussi qu'il y a des créateurs, je dirais, de d'éléments qui se grèvent dans l'industrie. Hein, ça peut être, alors ça peut être, par exemple, un logiciel type qui est dédié à une activité industrielle, etc., mais qui est destiné donc à l'amélioration des performances d'une usine ou du, enfin, donc ce genre de choses. Ça veut pas dire, bien évidemment, que le tout ce qui est informatique, et au contraire, ça continue de bien marcher. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui a été le plus fragile, c'est quand même, c'est, ces plateformes internet là,
oui, qui ces bulles informatiques, ouais, hein, ouais. Donc
et on reçoit, là, pour compléter ce que disait Anne, on reçoit globalement, enfin pas, on reçoit globalement chaque année, on a entre 12, 15 et 17, 18 à peu près nouveaux lauréats.
D'accord.
Donc et cumulé, effectivement, dans à peu près une cinquantaine là.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Non, c'est un, c'est une belle entreprise, on va dire, voilà, ce réseau Entreprendre. Mmh. Aussi, peut-être, est-ce que vous êtes au courant des statistiques dans la France? Vous vous situez comment par rapport aux autres départements?
Alors, il faut dire que l'Île-de-France est particulière, parce qu'effectivement, dans l'Île-de-France, il y a une association, donc un réseau Entreprendre, par département. Paris, qui est le plus gros et de loin, où il y a 250 membres, effectivement, et beaucoup d'entreprises. Globalement, les départements d'Île-de-France, c'est le 78 le plus gros, mais bon, on est à peu près équivalent. Mais en région, en revanche, ce sont des associations qui sont multidépartementales, on va dire.
Ah oui.
Donc, il peut y avoir une association Réseau Entreprendre dans le PACA, ou en Aquitaine.
D'accord.
ou en Vendée, ou en Bretagne, etc. Donc ça fait qu'il y a des réseaux qui sont avec 250, 300 membres, avec 50 projets par an ou 60 projets par an, et qui sont donc, et par le fait donc comme elles sont structurées différemment, il y a des grosses différences, effectivement, de volume, de d'affaires traitées, etc. Mais on garde, bien sûr, le même ADN et la même façon de fonctionner, ce qui est important. Enfin voilà. Puis,
oui, c'est, il y a un schéma bien établi, un schéma que vous suivez.
Tout à fait. J'étais récemment donc au conseil d'administration de la fédération, et puis aussi à l'assemblée générale de la fédération. Et donc ça donne c'est l'occasion de rencontrer donc d'autres présidents, et on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, quoi.
Bien sûr.
La région fonctionne pareil, ce qui est bien, quoi, ce qui est chouette, en fait.
Allez, on prend quelques minutes de pause à nouveau, et cette fois c'est avec Patrick Fiori et son titre Les gens qu'on aime.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien, attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien. Si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam da ba da bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes. Tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire c'est important, les dire avant tant qu'il est temps. On veut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoulent nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passent les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes, et tous les mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est important, le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bandabadaba. On devrait dire aux gens quand on les aime. Trouver les phrases, trouver le temps. Qu'ils changent nos heures amères en poèmes. On devrait tous se dire avant. Il faut le dire aux gens quand on les aime. Comme ils comptent pour nous chaque instant. Les mots doux et mieux qu'un mot requiem. Et tant qu'on est là, bien vivant, tout se dire tant qu'il est temps.
IDFM, 98FM.
C'est l'économie en direct. Merci de nous suivre jusqu'à 11h ce matin en compagnie de Anne Le Gagneux et Michel Marseillan, co-président du réseau Entreprendre Val d'Oise. Anne et Michel, entreprendre aujourd'hui dans le contexte actuel n'est pas simple, probablement. Alors, deux questions déjà. Peut-être nous parler de vos partenaires financiers. Et puis, est-ce que vous avez beaucoup de femmes chefs d'entreprise dans votre réseau? Donc, qui veut prendre la parole?
Alors, sur les femmes, moi, je veux bien prendre la parole.
Oui, Anne.
Il n'y en a jamais assez. Voilà. Donc on n'est pas forcément, on choisit pas les dossiers qui nous arrivent puisque c'est la démarche de l'entrepreneur de venir à nous, même si on essaye de faire beaucoup de communication. Les femmes, je pense que par essence elles sont toujours un peu plus discrètes, un peu moins sûres d'elles d'aller présenter leurs projets. Donc je dirais qu'on a plus d'hommes qui viennent nous solliciter et donc plus d'hommes qui sont lauréats. Et c'est dommage, donc je profite d'avoir la parole pour dire les femmes, n'hésitez pas.
On vous attend.
Voilà, il y a beaucoup de bienveillance, vous êtes aussi bonnes que les hommes, voire des fois meilleures.
Absolument, donc, parce que je crois que le taux de réussite d'entreprise des femmes est aussi intéressant.
En général, elles sont peut-être plus dans le détail, plus la tête sur les épaules, donc et c'est peut-être ça qui les fait hésiter aussi à se lancer. Donc je les encourage à prendre contact avec nous et le plus de femmes lauréates on aura, le mieux.
Voilà. Bon, vous nous direz si l'appel a été entendu. Merci Anne. Michel, un mot sur vos partenaires financiers?
Partenaires financiers principalement BPI avec qui effectivement qui est notre cofinanceur parce que les prêts d'honneur que le réseau consent donc sont cofinancés, on va dire, pour un tiers de tiers avec la BPI. Donc c'est notre partenaire aussi de tout temps et puis qui a abondé effectivement notre fonds de prêt. La CIC avec qui on travaillait également et puis les partenaires aussi, les territoires comme la Cité Anne, Pleine Vallée,
Cergy,
Argenteuil, tous ces
dont le soutien est très important, capital.
Absolument.
Dans notre action.
Ce sont des gens qui soutiennent notre activité, notre fonctionnement, puis on a besoin effectivement de fonds pour faire fonctionner notre association et on leur est très 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 reconnaissant.
Oui. C'est quel droit de regard ont-ils sur votre fonctionnement ces financiers?
En fait, très peu. Je pense que on signe une convention.
Oui.
Oui.
Donc là, une fois qu'on s'est entendu sur les choses sur la base de notre collaboration, je pense qu'il n'y a pas d'ingérence ou il n'y a pas de. Après, notre travail à nous, notre travail commun, c'est de lever un maximum de projets sur ces territoires. Pour que tout le monde soit content dans cette association.
Bien sûr.
Effectivement.
Oui,
et
Michel.
Puis, on rendait compte, bien évidemment. C'est-à-dire qu'effectivement, par rapport aux subventions qui nous sont accordées, dépendent effectivement de nos actions sur les territoires. Et chaque année, on les rencontre, pour faire le bilan avec eux. Voilà ce qu'on a fait sur votre territoire. Le nombre d'entreprises lauréates qui sont devenues lauréates, qu'on a financées, qu'on accompagne, etc. Donc, il y a. C'est un suivi bienveillant, on va dire.
Oui,
c'est normal que qu'on doit les tenir informés précisément de ce qu'on a fait sur leur territoire et ça se passe toujours très bien. C'est toujours en bonne intelligence et bonne compagnie, quoi.
Est-ce qu'on a, on observe aujourd'hui une forte envie d'entreprendre en France, malgré les difficultés, parce que là, depuis qu'il y a le Covid, enfin, ça s'enchaîne. Et aussi, ma question, est-ce que c'est vous qui allez chercher les candidats ou ce sont les candidats qui viennent à vous, Michel?
Alors, à la première question, moi, je pense qu'il y a encore une envie d'entreprendre. Je pense que le rêve de l'entrepreneuriat n'est pas terminé, même si je pense que les jeunes... Les jeunes sont conscients qu'il y a des difficultés, mais je pense qu'en même temps, ils sont confiants en eux. Hein, ils ont confiance en eux. Confiance, je dirais, dans les institutions, sur les territoires, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'ils ont toujours ce rêve-là de créer l'entreprise. Même si on est, à mon avis, maintenant un petit peu éloigné de la licorne. Hein,
oui.
On sait bien que maintenant, qui pense aujourd'hui pouvoir créer de licorne alors que ça se passe de plus en plus aux États-Unis, voilà. Mais malgré tout, je pense que beaucoup de jeunes ont envie d'être entrepreneurs, alors que ce soit par voie de création ou, comme on le disait aussi, par voie de reprise. C'est vrai que on a 35-40 ans, on a une bonne expérience de manager en entreprise, salarié, etc. On se dit pourquoi pas moi. On franchit le pas et on achète une entreprise. Donc je pense, oui, là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de projets et beaucoup d'envie, oui.
Et probablement qu'il y a un vrai atout à jouer avec cette fameuse reprise d'entreprise,
oui,
pour les jeunes, hein, qui ne doivent pas hésiter à se lancer.
Tout à fait, effectivement. Encore une fois, dans l'industrie, mais aussi dans tout un tas d'activités. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux entreprises, qui existent et qui sont, en voie de cession ou de précession, il y a quand même beaucoup de domaines d'activité au-delà de l'industrie, il y a aussi beaucoup de qui peuvent intéresser beaucoup de repreneurs et beaucoup de
Ma deuxième question, c'est est-ce que ce sont les candidats qui viennent à vous, c'est vous qui allez les chercher?
En général, je pense que ce sont plutôt les candidats qui viennent à nous suite à toutes les actions de communication qu'on peut mettre en place.
Avec une certaine peut-être cooptation aussi par d'autres chefs d'entreprise.
Alors quand on le peut, c'est bien. C'est vrai que on essaye, nous, de chacun dans nos cercles, de détecter et de faire venir à nous des projets. Mais bon, on reste que des bénévoles avec nos propres entreprises à gérer, et c'est pas forcément toujours évident de consacrer un temps fou à aller
chercher ces fameux profils
ou avoir des potentiels jeunes ou repreneurs volontaires dans notre entourage. Donc c'est beaucoup quand même du contact entrant.
Oui, oui.
D'où l'importance de venir parler et de présenter nos actions.
Complètement. Ça faisait un moment qu'il fallait qu'on se rencontre.
Hein, à...
Michel.
Oui, je suis allé il y a deux mois, donc à un petit événement, une rencontre organisée par France Travail que j'ai trouvé très intéressante. On était à cette matinée avec Initiative et puis Réseau Entreprendre et Initiative ont chacun parlé de leur activité, de leur distinction, de ce qui les rapproche, de ce qui les éloigne, entre guillemets. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que on s'est rendu compte à la fin, donc c'était une présentation, il y avait une cinquantaine de jeunes gens qui voulaient justement rentrer dans le monde de l'entreprise. Ils disaient, mais c'est bien de faire des actions comme ça, parce qu'effectivement, on ne savait même pas que vous existiez.
Ah oui, bien sûr.
Et donc, c'est important de faire comprendre qu'on a besoin encore, même malgré nos 40 années, nous, ça fait 15 ans qu'on existe, un Réseau Entreprendre Val d'Oise, malgré ça, on a encore besoin de communiquer sur le territoire, et puis là, je fais un petit peu appel à ces différents partenaires, effectivement, qui peuvent nous solliciter, à nous, moi, pour aller présenter le Réseau Entreprendre Val d'Oise, ou notre directrice aussi, qui est parfaitement à l'aise dans ses présentations, pour qu'on puisse donner plus d'informations sur nos activités et de ce qu'on peut faire, donc sur les créateurs d'emplois, quoi.
C'est jamais fini, mais c'est jamais assez.
Fini, ouais. Oui, c'est sûr.
Il faut tous les ans, faut renouveler et le refaire.
Alors, toujours par rapport à votre taux, hein, que je trouve impressionnant, de 92% de taux de pérennité, est-ce que c'est dû aux atouts du Val d'Oise, hein, qu'il y a, ou c'est vraiment votre méthode? Vous avez un regard sur ce taux?
Alors en fait, c'est un taux national.
Oui.
C'est une moyenne nationale et qui nous a été donnée par la fédération là quand j'étais au dernier conseil.
C'est encore mieux alors. Oui.
Et effectivement, ça prouve. Ça prouve la méthode du réseau entreprendre au plan national, au plan global, qui est extrêmement cadré, qui existe depuis 40 ans, qui s'améliore et qui fait ses preuves en fait. Hein. Donc on se rend compte que notre exigence malgré tout, parce que il faut une forme d'exigence fait que on sélectionne des dossiers qui sont et des chefs d'entreprise qui ont la capacité à porter leur dossier. Alors pourquoi je parle d'exigence, et il en faut une parce que on parle de prêt d'honneur, mais un prêt d'honneur c'est un prêt.
Bien sûr.
Donc il faut pas oublier que la personne, c'est ça, qui emprunte, elle s'engage à rembourser. Mmh. Donc accorder des prêts trop facilement, c'est pas un cadeau à faire aux gens, aux dirigeants, enfin aux porteurs de projets. On leur fait pas un cadeau, parce qu'effectivement, si l'entreprise marche pas, ils sont payés, obligés de continuer à payer sur leur fonds propres. Alors sachant qu'on a effectivement une garantie BPI qui joue, mais qui joue pas sur l'intégralité. Donc il y a une partie du prêt qui est pris en charge par la BPI. Dans le cadre de la garantie, mais eux-mêmes doivent s'engager à rembourser le reste. Donc ça peut être pénalisant, ça
bien
peut
sûr.
Être quelque chose de
difficile. On l'a bien vu avec le PGE là au moment du
Exactement.
Covid, hein, où
Exactement.
Beaucoup
Exactement.
D'entreprises l'ont contracté sans pouvoir le rembourser ensuite.
C'est ça. Ouais, et c'est là où ça mène effectivement aux problématiques de liquidation judiciaire ou autres difficultés d'entreprise.
Alors Anne et Michel, donc on a compris les valeurs que vous attendez de vos candidats, mais pour vous, quelle serait la qualité essentielle d'un entrepreneur, Anne?
Moi je dirais c'est des qualités d'anticipation,
oui.
Des qualités de réaction devant les problèmes, de courage, de jamais laisser s'enterrer une question problématique. C'est pour moi c'est ça, le nœud de la réussite.
C'est ce qui vous a motivé tout au long de votre
Absolument.
Carrière depuis que vous êtes chef d'entreprise.
Oui, la résolution de problèmes, moi j'ai toujours adoré ça. Hein.
Oui.
Donc oui.
Ça vous fait pas fuir en tout cas, au
pas
contraire.
Pas du tout.
Merci Anne. Michel.
Je rejoins Anne et j'ajouterais oser. Il faut oser. Pour créer sa boîte, pour reprendre une boîte, il faut sauter un pas. C'est vrai que il peut y avoir pas mal de, comme un plafond de verre, en fait, de se dire, je pourrais jamais être chef d'entreprise parce que ceci, parce que cela. Mais si, on peut être un bon chef d'entreprise, effectivement, il faut oser. Et puis, bien sûr, encore une fois, avoir confiance en soi et de se dire que, qu'avec des méthodes, avec un accompagnement, de faire appel à des pairs s'il le faut, on ose et on peut bien réussir.
Alors, dans quelques minutes, va ouvrir le salon Effervescence, va s'ouvrir. Vous y participez?
Moi, j'y participe depuis que j'ai repris Interplan.
Mais pour Interplan, donc.
Pour Interplan, pour Réseau Entreprendre, pour, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'occasion de rencontrer tous nos pairs, tous nos collègues du territoire, les nouveaux, les anciens, c'est toujours un plaisir de se revoir tous dans une ambiance qui est toujours excellente, bon enfant, sympa. Donc, un événement à ne pas manquer.
À ne pas manquer et où nous allons nous retrouver également puisque IDFM couvre l'événement.
On s'y retrouvera donc tous les trois.
Alors, on arrive doucement à la fin de l'émission. Je propose encore une pause avec un titre de Johnny Hallyday et David Hallyday, 100%, et on a encore quelques minutes avant de se quitter.
J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Qui pouvait soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups
monde, les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir, mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de nos différences, à force d'échanger nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble sans pourcent. Au-delà de nos différences, à force d'échanger nos silences, on se ressemble 100%, tous les deux 100%, oui, tous les deux 100%, tous les deux 100%, tous les
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct et nous sommes sur la dernière ligne droite de cette émission consacrée au réseau Entreprendre Val d'Oise, hein, en compagnie de Anne Legagneux et Michel Marseillan, tous deux coprésidents de ce réseau. Alors justement, je voudrais revenir, cette coprésidence, elle a toujours existé, j'ai l'impression. C'est un choix du réseau Entreprendre ou c'est le choix du réseau Entreprendre Val d'Oise?
C'est le choix du Val d'Oise qui fait un petit peu des émules maintenant, je pense. La présidence de cette association, c'est quand même un engagement fort. C'est beaucoup de temps, beaucoup de représentations. Donc, dans le Val d'Oise, ça fait déjà de nombreux mandats qu'on est passé à une coprésidence pour répartir la charge, pour être sûr qu'il y ait toujours l'un des deux présidents qui puisse représenter l'association aux différents événements auxquels il est important qu'elle assiste. Donc, l'important, c'est de trouver le bon binôme. Et je pense que bon, ces dernières années, ça a été plutôt réussi. D'ailleurs, Réseau Île-de-France nous avait demandé d'expliquer notre organisation et de dire en quoi vraiment elle était plutôt positive, qu'elle allège la charge de chacun, elle donne deux têtes à l'association, deux réflexions complémentaires. Et c'est ce qu'on a trouvé avec Michel. On a trouvé un très bon équilibre.
Oui.
Chacun sur son...
Vous vous connaissiez bien avant d'avoir cette présidence,
plutôt de vue, je dirais.
Oui.
Mais chacun dans son style, je pense que.
Oui, vous êtes très complémentaires.
On arrive à faire quelque chose de constructif pour l'association et c'est ce qui compte.
Avant vous, c'était Paul Nathan et Caroline Bergbaum, donc voilà, que j'avais eu l'occasion de recevoir également. Et puis je me disais en vous écoutant que vous appliquez au fond les conseils que vous donnez, à savoir de préparer la succession. Donc en étant tous les deux, c'est un bon signal, hein, je trouve.
Oui, alors on prend des mandats de 3 ans, donc nous on est à notre première année, la deuxième année qui vient juste de démarrer, on va dire, donc on a encore 2 ans devant nous pour préparer la succession. Mais oui, effectivement, c'est comme disait Anne, c'est quand même une charge très intéressante, mais qui prend du temps.
Bien sûr.
Et c'est vrai que quand on est un chef d'entreprise avec diriger sa boîte et qu'il faut s'en occuper, on est très content d'avoir un binôme qui peut prendre
d'autres,
qui fonctionne bien et puis qui peut soulager. Alors effectivement, oui, il faut qu'on anticipe notre succession, mais on se laisse encore un an.
Vous avez encore
un petit peu de temps. Ouais.
Alors, oui, également, donc le réseau Entreprendre, on a bien compris que c'était des événements assez prestigieux parfois. Et là, vous avez une soirée le 27 mai à 18h à la Turbine et je vous laisse nous le décliner, Michel.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une soirée un peu nouvelle. Je rappelle que le réseau Entreprendre, c'est de l'accompagnement, mais c'est de l'accompagnement jusqu'à présent de prêt d'honneur et puis, bien sûr, on l'a vu, de pair à pair. Mais là, en fait, on a voulu créer un événement d'accompagnement au-delà du prêt pour ce qu'on appelle les financements en fonds propres. Le financement en fonds propres, c'est mettre de l'argent dans le capital de l'entreprise. Donc, on a décidé de faire se rencontrer certains de nos lauréats qu'on a un petit peu triés, choisis, avec un business angel, un fonds d'investissement et un deuxième business angel que je peux citer, puisque effectivement c'est public. Donc, il y aura Paris Business Angel, il y aura un fonds des forces françaises de l'industrie et puis Endered aussi qui est un autre business angel. Alors l'un est plus généraliste, c'est Paris Business Angel, l'autre est plus bien sûr dédié les FIFI dédié industrie et le troisième est plus tech. Donc on a voulu avoir comme ça des profils et l'idée c'est de se faire rencontrer pendant une heure et demie, faire pitcher certains de nos sept lauréats qu'on a donc sélectionné, on va dire, les faire se présenter, mais pour de vrai. Hein, c'est pas quand je dis pour de vrai,
oui, c'est
pas un énième exercice pour voir si tout se passe bien ou s'ils ont bien pitché ou pas. Ils ont des vrais besoins de développement, de lever des fonds sur des montants significatifs. Hein, on va parler de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus, pour des projets bien ciblés, déterminés, de la croissance, du matériel, embaucher des cadres, du personnel qui très coûteux, etc. Et de faire que cette rencontre puisse se traduire par quelque chose de concret, des véritables relations d'affaires, et puis pourquoi pas, on l'espère, des prises de participation par un de ces fonds dans nos lauréats. Alors pourquoi on est venu à faire ça? Parce que moi, comme avocat, c'est pareil. J'ai vu que certains jeunes partaient un petit peu se faire financer un peu n'importe où, et notamment chez certains family office, comme on dit, qui pas forcément très professionnel ou très scrupuleux. Et justement, on avait il y a quelques années, là, 2-3 ans, un jeune qui avait créé aussi trois jeunes qui avaient créé donc une appli, qui ont fait rentrer dans leur capital un family office pas très scrupuleux. Ça s'est très mal passé.
Oui.
Donc on a voulu sélectionner des gens dont c'est le métier, de confiance et qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc c'est ouvert
et
à tous.
En même temps, attirer l'attention justement sur cette vigilance.
Mais ce sont des professionnels de l'investissement que l'on connaît, directement ou indirectement, donc qui nous sont recommandés. Moi, j'en connais un très très bien, et ce sont des gens avec qui, effectivement, on sait qu'on peut travailler
Oui.
Parce que c'est aussi notre responsabilité, en faisant cet événement, de faire se présenter nos lauréats à des professionnels de l'investissement.
Bien sûr.
Et on veut surtout pas qu'ils se fassent manger tout cru, quoi.
Bien sûr.
Choses se passent bien.
Ouais. Ouais,
donc c'est ouvert, tous ceux qui aimeraient.
C'est l'occasion à ceux qui ne connaissent pas et qui veulent voir comment ça se passe de venir et d'assister et au pitch des lauréats et au retour des investisseurs. Donc je pense que même pour des non-membres, des gens qui sont pas aujourd'hui chez nous, très bonne occasion de découvrir comment ça se passe et ce milieu, quoi. Je crois que c'est bien de le faire connaître et d'avoir le plus de monde possible.
Oui. Tout à fait.
Bien sûr. Bah, écoutez, on va relayer cet événement du mieux que nous allons pouvoir le faire
déjà avec
cette émission, bien sûr. Et puis, au-delà, évidemment.
Inscription possible via notre site internet.
Très bien. Merci. Merci, Anne. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Donc merci en tout cas Anne Le Gagneux et Michel Marseillan. Merci pour votre engagement auprès des entrepreneurs du territoire et pour le travail mené au quotidien afin d'accompagner les créateurs, repreneurs et dirigeants d'entreprises. Et il y a une petite tradition dans l'émission, c'est on a un mot avant de nous quitter. Donc Anne, je vous donne le feu vert pour un mot avant
de déjà, je voudrais vous remercier, Jacqueline, pour votre accueil et pour le plaisir qu'on c'est a normal. À échanger avec vous et à savoir que notre parole sera portée
oui.
auprès de, du tissu économique du Val d'Oise, parce que c'est vraiment ce qu'on recherche. Et de dire que bah finalement cette collaboration et la mise en lumière de nos lauréats bah elle est très importante, elle est capitale même. Donc franchement un merci à IDFM Radio et puis espérons que de continuer comme ça.
Et vous savez que vos lauréats sont les bienvenus hein dans l'émission
bien sûr,
donc
bien sûr.
Il faut absolument qu'on prenne rendez-vous
absolument,
avec eux.
Il faut qu'on leur dise de venir oser parler à la radio, ce qui doit pas être facile pour tous.
Non, mais vous avez vu, ça se passe
très
ça
bien.
Se passe plutôt bien.
Très, très sympathique.
Plutôt très bien. Michel, un mot de conclusion.
Ben, je rejoins Anne pour mes remerciements également à IDFM et puis remercier aussi tous nos partenaires qui nous suivent là depuis une quinzaine d'années, sans lesquels ben, on serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Et puis je voudrais reparler effectivement par rapport à nos lauréats ou ceux qui nous écoutent et qui veulent nous rejoindre, qui hésitent à faire de l'entrepreneuriat, surtout n'hésitez pas. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est une aventure, c'est un engagement, mais c'est tellement gratifiant quand ça fonctionne bien. Et puis surtout, perdez pas confiance, voilà, dans l'avenir et dans le tissu économique de nos territoires.
Moi, je suis sûre que, accompagné par vous, les gens ont forcément confiance et, bah, encore une fois, votre taux de pérennité le prouve largement.
Bien, merci.
Et moi, je voudrais conclure en disant que le réseau Entreprendre illustre parfaitement, hein, l'importance de la solidarité entre dirigeants et du partage d'expériences dans le monde économique. Et dans une période où entreprendre demande du courage, de l'adaptation et de la persévérance, l'accompagnement humain reste vraiment le levier essentiel de la réussite. Et bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de ce spécial Réseau Entreprendre Val d'Oise. On va quitter les studios pour se retrouver au Salon Effervescence qui se tient cette année à l'Hippodrome d'Anguin-Soisy. Un événement, on l'a dit, devenu incontournable et encore une fois couvert par IDFM Radio. Donc, on se quitte pour se retrouver dans quelques instants. Merci infiniment. Merci Francky pour la technique. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis comme toujours dans cette émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage sur vos réseaux. Retrouvez son podcast sur idfm98.fr et surtout les programmes continuent donc sur IDFM Radio. Donc restez connectés sur notre fréquence 98.00 pour ne rien manquer des émissions à suivre. À bientôt.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Calimera. Vous aimez la Grèce ou vous êtes tout simplement un fil Hélène en quête d'anecdotes ou de découvertes sur ce beau pays? Retrouvez-moi, Hermione, dans l'émission IDLN. Je vous dresse en français un rapide tour d'horizon de l'agenda culturel grec en Île-de-France et je reçois des invités qui vous présentent leurs projets ou partagent leur expertise, toujours en lien avec la Grèce et dans une ambiance fraîche et conviviale. IDLN, c'est des idées, c'est des Hélènes, le troisième mercredi du mois à 18h sur IDFM. À bientôt! Yassa!